savoir ce que c'est exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde.
Marcello, come here.
Tous les cinémas du monde. Sophie Dorlotin, Elisabeth Le Quéré.
Bonjour et bienvenue dans tous les cinémas du monde. À l'affiche cette semaine, Papicha, un brûlot anti-intégriste et un formidable chant d'amour. Nejma a 18 ans, c'est une magnifique jeune femme, volontaire et pleine d'audace. Une femme libre dont le rêve est de devenir styliste. Mais c'est le début des années 90, hein, le moment où l'Algérie bascule dans la guerre civile. Bonjour Sophie.
Bonjour Elisabeth, bonjour à toutes et à tous.
Notre invitée cette semaine, c'est Mounia Medour, la réalisatrice de ce premier film formidable qui court à 200 à l'heure dans les rues d'Alger sur les pas de son héroïne, la flamboyante Nejma. Nous parlerons aussi cette semaine du Joker de Todd Phillips, bien sûr, hein, avec le non moins flamboyant Joaquin Phoenix, et puis du nouveau film de Christophe Honoré, Chambre 212.
Tous les cinémas du monde sur RFI avec Unifrance Film, l'actualité du cinéma français à l'international. www.unifrance.org.
On commence notre tour du monde par un hommage à une actrice phare des années 60-70 qui vient de disparaître, Sophie, Marie-Josée Natt.
Oui, elle avait une voix douce, des yeux et des cheveux très noirs. Marie-Josée Natt, mi-corse, mi-kabyle, avait obtenu en 1974 le prix d'interprétation féminine à Cannes pour Les violons du bal de Michel Drach. C'est ce réalisateur, hein, qui fut son compagnon pendant 10 ans, qui lui avait offert 7 ans plus tôt l'un de ses plus beaux rôles dans Élise ou la vraie vie, l'histoire d'une jeune femme amoureuse d'un militant algérien du FLN, un film longtemps interdit.
On est que 3 Français ici, vous vous rendez compte? Rien que des étrangers, des Algériens, des Marocains.
Des Espagnols et des Portugais. Mais votre frère, il les aime bien.
Si, il aime bien tout le monde.
Il a tort. Il n'y a pas à compter sur ces gens-là.
Mais tu sais, hein, là où j'étais avant, c'était encore plus dur.
Mais au moins, il n'y avait pas d'arabe.
Monsieur, il y a un ouvrier qui est malade et ne peut pas travailler.
Qui?
Celui qui pose les rétros, Areski.
Ah, et alors?
Il faut l'envoyer à l'infirmerie.
Ils veulent tous aller à l'infirmerie. Avant, c'était les cabinets. Rentre.
Toi, dis.
Ne reste pas là, rentre.
Donc que je t'en supplie. Non! Non.
Voilà, Marie-Josée Natt, hein, qui interprète dans Élise ou la vraie vie la femme la plus humaniste, hein, dans une usine où les ouvriers sont quand même très racistes. Marie-Josée Natt avait aussi travaillé pour la télévision, comme dans la série à succès Les gens de Mogador, une saga en 13 épisodes diffusée à partir de 1972.
De l'autre côté de l'Atlantique, Hollywood rend aussi hommage à l'une des pionnières noires de la télévision.
Oui, l'actrice et chanteuse Diane Carroll, emportée par un cancer à 84 ans. Elle avait commencé sa carrière comme chanteuse, puis tournée sous la direction notamment d'Otto Preminger dans Porgy and Bess. Mais c'est à la télévision qu'elle connaîtra le succès. D'abord dès 1968 avec la série Julia, mais elle y tenait le rôle principal d'une infirmière veuve élevant seule son fils. Mais c'est véritablement son rôle de Dominique Devereaux dans la série Dynasty qui la rendit célèbre dans le monde entier.
I don't like people asking questions about me behind my back. A good journalist goes straight to the source.
Oh,
would you say these clothes and jewels are those of your everyday journalist? Anything can be rented these days.
Yes, except intelligence. And I am a very bright woman, Mrs. Colby.
Voilà, je veux être la première garce noire à la télé, avait notamment lancé Diane Carroll dans une interview à l'époque.
Et puis on part à Busan, en Corée du Sud.
Oui, Busan où s'achève ce samedi la plus grande manifestation cinématographique dans le pays. Un festival qui renaît de ses cendres après plusieurs années de troubles. Et cette année, un documentaire a fait sensation. Les tickets pour la première se sont d'ailleurs arrachés en 10 minutes. Il s'agit du film Les 7 heures de la présidente, qui revient sur le naufrage tragique du bateau le Sewol en avril 2014.
그 자리에 없었다.
Voilà, en avril 2014, le ferry Sewol faisait naufrage. 304 personnes, dont 250 lycéens pris au piège, périrent dans cet accident. Le documentaire projeté cette année à Busan s'interroge sur l'emploi du temps de la présidente en poste à l'époque, destituée depuis par Gunhui, et donc sur les 7 heures après qu'elle prit connaissance de la tragédie. Ce sujet est sensible en Corée du Sud et encore plus sensible au festival de Busan, car déjà, un documentaire sur le Sewol du même réalisateur Lee Sang-ho avait provoqué un scandale en octobre 2014 et entraîné l'année suivante une baisse drastique des subventions et la démission du directeur.
De la Corée à la Chine, il n'y a qu'un pas, et voilà la troisième édition du Festival international de Pingyao. 15 films sont en compétition cette année, dont de nombreux, bien sûr, réalisateurs chinois. Et puis en guest star, l'invité d'honneur, Zhang Yimou, Zhang Yimou en VF, le réalisateur de d'Épouse et concubine, qui fut un grand, grand succès au début des années 90. On s'en souvient, a été souvent qualifié par ses détracteurs de réalisateur officiel du régime chinois. Il est venu parler à Pingyao de sa vision du cinéma d'auteur. On écoute ce reportage de notre envoyé spécial, Stéphane Lagarde.
Zhang Yimou, ce héros, le réalisateur du Sorgho Rouge, fêtera ses 70 ans l'année prochaine. Il reste l'idole des jeunes chinois, d'une partie en tout cas comme Sunny Jia, étudiante en cinéma, venue à Pingyao en train de Pékin pour assister à la masterclass du célèbre représentant de la cinquième génération des cinéastes en Chine.
Bien sûr que son œuvre touche aussi notre génération. C'est quelqu'un qui a toujours innové dans sa façon de raconter des histoires. Il est très discret. Ses apparitions sont rares, donc je suis venue tôt.
Des spectateurs qui se bousculent au portillon devant l'affluence, il a fallu changer de lieu. La masterclass se tient finalement en plein air dans le théâtre de Pierre qui a accueilli la cérémonie d'ouverture. Oreilles tendues sous les casquettes, regard admiratif derrière les lunettes. Les 1500 strapontins sont pleins. Un public à la mesure de l'aura de Zhang Yimou, devenu réalisateur officiel du régime en acceptant, après les Jeux Olympiques, de diriger cette semaine les cérémonies du 70e anniversaire de la Chine populaire.
D'abord, je dois corriger une chose. J'ai dirigé le gala d'anniversaire, mais pas de la parade militaire. Je me suis occupé de la post-production de mon nouveau film, Solide comme la pierre, en même temps que du feu d'artifice. Et puis après les vacances de la fête nationale, j'ai envoyé une nouvelle version de One Seconds à la commission du film. Je ne sais pas quand il sortira. Je souhaite le plus vite possible.
One Second, dernier opus de Zhang Yimou, retiré du festival de Berlin à la dernière minute, officiellement pour des raisons techniques, et toujours pas projeté publiquement. Film sur l'amour du cinéma, dit son auteur, mais aussi sur la révolution culturelle, un thème que les autorités chinoises ne souhaitent visiblement pas voir récompensé à l'étranger. Carlo Chatrian fait partie du jury de Pingyao cette année. Il n'était pas encore directeur artistique de la Berlinale lorsque l'incident est survenu.
C'est un cinéaste qui a changé beaucoup son style le long des années, mais qui a toujours gardé cette volonté de fasciner le public, que ce soit avec un pur spectacle, les Jeux Olympiques, ou dans un film plus de genre, ou peut-être aussi comme son dernier film qu'on a hâte de voir, One Second. Le film a dû être retiré pour des questions techniques. Après, comme le film a à voir avec la révolution culturelle, bien sûr, on peut lire d'autres choses, et en sachant aussi que ce n'est pas un cas unique. Le long de cette année, d'autres films ont été retirés. C'est un moment un peu particulier pour l'histoire du cinéma en Chine, mais tout le monde a l'espoir que on pourra encore voir des bons films chinois en Europe aussi.
De bons films chinois en Europe et sur les écrans de cette troisième édition du Festival de Pingyao, dirigé par un autre géant du 7e art, Jia Zhangke, toujours là pour donner un coup de main au cinéma, y compris lorsqu'il s'agit du dernier Zhang Yimou. Stéphane Lagarde, Pingyao, RFI.
15 nouveaux films en salle cette semaine, mais celui qui écrase tout sur son passage, c'est Joker de Todd Phillips. Lion d'or à Venise, c'est le film qui pourrait réconcilier les cinéphiles et les amateurs de super-héros. Joker, Sophie, ou la construction d'un anti-héros absolu, l'ennemi juré de Batman, vous avez adoré.
Oui, Joker, c'est un anti-héros, une icône de la pop culture depuis près de 80 ans. C'est le méchant par excellence, vicieux, sadique. C'est un personnage de clown grimaçant au visage blanc, les cheveux verts et la bouche peinturlurée de rouge. Et pour une fois, dans ce film, il ne sert donc pas de faire valoir à Batman, le super-héros justicier qui veut chasser les criminels de sa ville de Gotham. Dans ce film de Todd Phillips, nous sommes dans le New York crasseux et dangereux du début des années 80. Arthur Fleck rêve de devenir comédien au stand-up. En attendant de percer, il vit seul avec sa mère et gagne sa vie comme clown dans la rue. Atteint de crises de rire inextinguibles, maltraité, moqué, Arthur ne bénéficie même plus d'une aide médicale dont il semble pourtant avoir bien besoin.
Arthur, does it help to have someone to talk to?
My mother always tells me to smile and put on a happy face. She told me I had a purpose. To bring laughter and joy to the world.
Voilà, alors dans ce film, Joker de Todd Phillips, on n'est pas du tout dans un univers Marvel ou DC Comics, on est dans un univers très, très réaliste, voire presque, enfin, je ne sais pas si on peut parler de naturalisme à ce niveau, et ça tranche avec les précédentes incarnations du tueur, hein, qu'on a connu plus stylisé, par exemple, chez Tim Burton ou chez Christopher Nolan. L'interprétation de Joaquin Phoenix, là, elle fera date tant il semble hanté, presque halluciné, hein, dans ce rôle de Joker. D'ailleurs, pour le préparer, l'acteur qu'on connaît très très engagé, hein, dans ses films presque au bord de la mise en danger, lui, il a perdu 22 kilos. Sa maigreur maladive renforce l'impression monstrueuse qu'on a du personnage, qui est complètement psychotique, voire donc psychopathe. La performance est tellement impressionnante qu'on lui attribue déjà l'Oscar du meilleur acteur. Alors vous, je sais, puisqu'on en a déjà discuté, Elisabeth, que vous êtes moins enthousiaste que moi.
Alors, un point irréfutable, oui, c'est la performance extraordinaire, hein, de Joaquin Phoenix. Bon, à part ça, moi, je trouve, alors contrairement à vous, Sophie, que le film est d'une platitude absolue, qui est d'une pauvreté scénaristique terrible. Tout à l'heure, vous citiez, hein, le Scorsese, la valse des pantins, hein, la valse des pantins qui a manifestement inspiré Todd Phillips. Mais le personnage de De Niro, qui était le loser, hein, entre guillemets, du film, bah, il était super intéressant, il était tourmenté, il avait plusieurs dimensions, même dans sa relation avec la star de la télé, qui était jouée à l'époque par Jerry Lewis. Même cette relation, elle était constamment rejouée sur la brèche, remise en jeu, et je trouve que c'est ça un vrai personnage de cinéma. Là, vous disiez un film naturaliste, moi je dirais c'est complètement misérabiliste, mais surtout ce qui est pire que tout, c'est complètement mécanique. C'est-à-dire, il n'y a pas de vie là-dedans. C'est-à-dire, c'est Freud pour les nuls. Maman m'a fait du mal, donc je suis un super méchant. Je trouve ça vraiment bien court.
Alors moi, je suis pas d'accord quand même. Je vais quand même en rajouter, parce qu'effectivement, il y a cette lecture psychanalytique, mais il y a quand même une vraie lecture politique dans ce film de Todd Phillips, je trouve, puisqu'il montre quand même une société américaine inégalitaire avec l'émergence des milliardaires cyniques, les baisses des subventions sociales qui fait que ce personnage malade, les années Reagan, qui fait que ce personnage malade n'a même plus de médicaments, n'a plus de suivi, et il montre presque une relation, alors c'est pas mécaniquement, il montre quand même que derrière l'émergence d'un monstre, il y a aussi la monstruosité de la société. Donc je trouve, moi, que c'est un film plus politique. Donc allez voir le film, en fait, faites-vous une opinion, parce qu'effectivement, c'est vraiment un film qui divise profondément les critiques. Mais une chose est sûre, c'est que c'est un film dont on ne sort pas indemne.
Alors moi, je vais vous parler d'un autre film, hein, qui va réconcilier tout le monde. C'est Chambre 212, le nouveau film de Christophe Honoré.
Oui, après le drame autobiographique « Plaire, aimer et courir vite », Christophe Honoré livre une comédie fantaisiste, hein, presque un vaudeville, avec un quatuor d'acteurs au top, Chiara Mastroianni, Benjamin Biolay, Vincent Lacoste et Camille Cotin.
Depuis quand, dis-moi, ta sexualité est devenue une activité extra-conjugale ?
C'est la loi des couples qui dure, personne n'y échappe.
Sauf que moi, je t'ai jamais trompé en 25 ans.
Richard !
Voilà, alors Maria, alias Chiara Mastroianni, quitte le domicile conjugal après que son mari, son amour de jeunesse, campé par le chanteur Benjamin Biolay, ait découvert sa liaison adultère avec un étudiant, mais elle ne part pas loin. Elle s'installe dans l'hôtel en face, chambre 212, avec une vue plongeante sur son appartement, son mari et son mariage.
Je suis fou d'inquiétude, là, tu t'en rends compte ?
Pourquoi avoir réveillé le passé, Maria ?
C'est qui ?
Alors Maria, dans la chambre de 112, elle va recevoir la visite de Richard, son mari, mais son avatar, un jeune à 25 ans, il a les traits de Vincent Lacoste, défilent aussi dans cette chambre de 112 ses nombreux amants, et puis la professeure de piano de Richard, alias Camille Cotin, sans oublier un personnage irrésistible, incarnant sa volonté et chantant avec la voix de Charles Aznavour. L'ensemble se révèle réjouissant, surprenant. J'ai pu rencontrer Christophe Honoré et Chiara Mastroianni et je leur ai demandé si justement l'objectif était de renouveler le traitement d'un thème aussi souvent traité au cinéma que celui de l'usure du couple.
Quand on part sur ce genre de motif, sur ce genre d'histoire, même si c'est, comme vous dites, commun, mais en tout cas c'est universel, c'est-à-dire ça traverse tous nos vies. Mais en tant que cinéaste, l'idée c'était de réussir à essayer de trouver une forme inédite et de trouver le croisement justement entre à la fois raconter et prendre très au sérieux ces personnages, cette situation, mais de faire en sorte en fait de faire engouffrer le plus de légèreté, de fantaisie, de, et j'allais dire presque d'enchantement dans la manière de l'exprimer.
Vous, Chiara, c'est justement ce qui vous a séduit dans ce projet?
Ah oui, pour avoir déjà souvent travaillé avec Christophe, je connais son audace et qui me plaît énormément, mais c'est vrai que là, ce qui me réjouissait encore plus par rapport à ce projet, c'était le fait que, pour connaître Christophe un petit peu, moi je sais qu'il est drôle dans la vie, etc., mais c'est quelque chose qu'on n'avait pas eu tellement l'occasion d'explorer ensemble dans ses films. Il y a des moments drôles un peu dans Les Idoles, parce que là il va vous dire, mais si, il y a quand même des trucs drôles. Mais enfin, je pense que c'est là un peu notre première fois à tous les deux, moi comme actrice et lui comme metteur en scène, d'aller vers ce genre de pas l'histoire, mais en tout cas ce traitement de légèreté sur un sujet pas tendre.
Là, vous autorisez un mélange de genres, même entre le vaudeville et alors le réalisme magique, entre les pouvoirs du cinéma et puis aussi un dispositif théâtral, finalement. C'est je vous sens complètement débridée en fait dans ce film-là.
Non, mais je me suis accordé à l'humeur du personnage principal qui est joué par Chiara et qui c'est vraiment un film qui affirme une liberté de son personnage principal, avec cette idée que le film refuse de juger ce personnage et essaye d'accompagner cette liberté de son personnage. Et donc c'est vrai que c'est mon 12e film, donc vous savez, quand vous démarrez à faire du cinéma, vous savez pas très très bien le genre de cinéaste que vous êtes, donc vous posez comme ça, vous essayez un peu des choses, et puis petit à petit, vous comprenez ce que vous savez faire, ce que vous savez pas faire, mais vous vous interdisez parfois justement de sortir peut-être d'un territoire un peu confortable. Et sur ce film-là, j'avais plutôt envie d'expérimenter. J'avais envie d'essayer des choses, d'aller tourner en studio, ce que j'ai jamais fait, de faire en sorte que la caméra ait des trajets, on va dire, qui des fois échappent un peu à une signification précise. Et puis à essayer de faire en sorte que cette nuit que Chiara va passer soit une nuit magique. Alors c'est terrible, parce que dès que vous dites le mot nuit magique, on a tous Catherine Lara en tête.
Pas Vincent Lacoste, ça nous a filé un gros coup de vieux parce qu'il disait qu'il connaissait pas lui.
Voilà.
Non, surtout, non, aucun intérêt.
Pour les gens qui n'ont pas connu les années 80, mais en fait, c'est quand même bien ça qui se passe dans ce film-là. C'est une nuit magique offerte à un personnage féminin et qui va pas être une nuit tendre pour elle, comme le disait Chiara, mais qui en revanche va être une nuit profitable.
Chiara, votre personnage de Maria, accepte de tout à fait naturellement de voir Richard, l'avatar, on va dire, jeune de Richard, sa professeure de piano jeune, accepte de voir toute une série de personnes comme si c'était tout à fait naturel.
C'est-à-dire que non seulement elle les accepte, mais je pense même qu'elle les invoque, parce que tout le pari du film aussi, une partie du pari du film, c'est aussi comment on filme un personnage qui pense, sans que ce soit pénible pour le spectateur. Et je crois que la trouvaille de Christophe de faire que les pensées soient incarnées au moment où elles viennent à l'esprit de Maria, c'est un dispositif qui est très ludique et qui en fait un film qui est intelligent, mais qui est pas intellectuel, qui est pas quelque chose de rébarbatif. Et je trouvais... Enfin, il y a eu le truc de Pixar sur vice-versa sur le cerveau. Nous, on est dans un cerveau, mais sentimental. Disons que c'est des questions plus sentimentales qu'elles se posent. Mais c'est vrai que je trouve quand même vachement réussi le fait de montrer quelqu'un qui pense sans que ce soit pénible pour le spectateur.
Mais c'est drôle parce que je n'ai jamais pensé à Vice-versa, que j'ai adoré.
Ouais.
Mais c'est exactement ça le film qu'on a fait. Vice-versa essaye de raconter qu'est-ce que c'est que le passage à l'adolescence. Et là, on essaye de raconter qu'est-ce que c'est que le passage à l'âge adulte, en fait.
Ouais.
T'as raison, c'est ce film-là, le film de référence. C'est pas René, c'est pas Léo Baccarat, c'est Vice-versa.
Oui, vous remerciez certains de vos cinéastes de prédilection dans le générique.
J'aime bien cette idée quand même qu'un film, c'est un espace où on invite des gens, on invite des acteurs à venir. Et pour moi, j'invite des metteurs en scène avec moi, en fait. Et moi, je prétends jamais, je crois jamais à l'Immaculée Conception, vous voyez, dans les films. Je crois vraiment que on fabrique des films parce qu'on a vu les films des autres et on essaye de trouver sa voie personnelle, en fait, sur des motifs qui ont été forcément traités par plein de gens avant nous. Et donc là, évidemment, sur la conversation conjugale, c'est impossible de ne pas penser à Bergman, puisque ça a été quand même le socle d'une grande partie de sa filmographie. Woody Allen, à un moment, peut-être moins aujourd'hui, mais cette question de qu'est-ce que c'est que le lien conjugal, qu'est-ce que c'est que le couple, et le couple et la ville, j'allais dire, c'est évidemment aussi essentiel. Et puis sur le côté un peu plus cérébral dont on parlait, le côté vice-versa, le côté film-cerveau, c'est vrai qu'un quelqu'un comme Alain René, en fait, a été essentiel, en fait, pour moi. Donc, quand je les cite, c'est pas du tout c'est pas pour m'attribuer leur valeur, c'est même pas pour faire une salutation, c'est juste, pour moi, je me sens... Je suis heureux déjà de mettre leur nom sur ce générique à côté du nom de Chiara, d'avoir Chiara Mastroianni et de pouvoir mettre Cary Grant à côté. C'est une espèce de rêve un peu enfantin, mais ça me plaît beaucoup.
Christophe Honoré et Chiara Mastroianni, réalisateur et actrice de Chambre 212. Voilà, avant l'arrivée de notre invité Mounia Medour, on fait une pause musicale avec Ini Kamoze, la BO de son film Papicha.
Cha-ching, ching. Here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Excuse me, Mr. Officer. Still live it like that. Extraordinary. Juice like a strawberry. Money to burn, baby, all of the time. Cut to fit. It's me. Fit to cut the shit. Number.
Des années 90, une jeune femme veut s'amuser, danser, boire. Nejma a 18 ans à peine et une envie contagieuse de dévorer le monde. Ce qu'elle veut plus que tout, c'est devenir styliste, coudre pour ses amis des robes somptueuses, élégantes, sensuelles, qui moulent le corps et mettent en valeur les courbes féminines. Tandis que le pays sombre dans la barbarie, Nejma va continuer à foncer à 200 à l'heure, au nez et à la barbe des intégristes. Bonjour Mounia Medour.
Bonjour.
Papicha, votre film est un film incandescent qui vibre à l'unisson de ce personnage magnifique, incarné par Lina Koudry. Il a été récompensé par 3 prix au Festival d'Angoulême. Là, il vient d'obtenir la semaine dernière au Festival War on Screen le prix de la mise en scène et le prix du jury étudiant. Et le public français peut le découvrir en salle depuis mercredi. Mais pas les Algériens, puisque vous avez appris à quelques jours de l'avant-première que celle-ci était annulée. C'était le 20 septembre et je crois, en tout cas au début, on ne vous a donné aucune explication. Alors est-ce que depuis, ça s'est un peu clarifié ?
Non, on n'a absolument pas d'informations supplémentaires par rapport à cette annulation. On n'arrive pas du tout à joindre le cabinet du ministère de la Culture. Notre producteur algérien, donc Belkacem Hadjadj, qui est sur place en Algérie, a essayé par plusieurs moyens d'atteindre donc le ministère pour obtenir des réponses. Et malheureusement, on ne sait toujours pas à quel moment on pourra projeter le film en Algérie.
Alors que Papicha avait obtenu des financements et tous les visas.
Tout à fait. Papicha, en fait, est un film qui a été donc soutenu par le ministère de la Culture financièrement. C'est un film qui a obtenu ses autorisations de tournage, puisqu'on peut bien évidemment pas tourner de long métrage en Algérie, en tout cas pas comme celui-ci en plus, sans autorisation de tournage. C'est un film qui a obtenu aussi le visa d'exploitation. Mais depuis, bien évidemment, il y a eu la révolution du sourire et les choses ont évolué. Et du coup, effectivement, nous nous heurtons à une interdiction de sortie. En tout cas, la sortie est ajournée pour le moment.
Les présidentielles aussi, c'est pour le 12 décembre, ça aurait pu jouer. Vous avez une piste d'analyse? Est-ce que le sujet, la guerre civile, on peut pas dire que ce soit tabou, parce qu'il y a tellement de films.
Oui, je pense qu'il y a, beaucoup d'éléments. Il y a la conjoncture actuelle, il y a un manque d'infrastructures, puisqu'il faut imaginer que nous avions une salle de 200 personnes pour cette avant-première et on a reçu plus de 2000 invitations, plus de 2000 demandes. Donc, on n'a pas les infrastructures non plus pour accueillir tout ce monde-là. On peut imaginer aussi, c'est le vous savez, au moment du Festival de Cannes, nous avons porté des badges en soutien au peuple algérien, en soutien à la révolution algérienne, en soutien aux jeunes qui étaient dans les rues, puisqu'on on avait fait ça un vendredi. Donc, est-ce que c'est effectivement le port de ces badges? Est-ce que c'est le contenu? Est-ce que c'est la situation de la femme dans le film, qui est une femme donc émancipée, résistante, qui pose souci? Est-ce que c'est cette blessure qui est un peu trop importante, qui concerne donc la décennie noire? Donc, je pense que c'est un peu de tout ça, oui.
Et on parlait beaucoup, en tout cas avant l'annonce de cette annulation du film, comme candidat de l'Algérie dans la course aux Oscars, entre autres à l'Oscar du meilleur film étranger. Alors est-ce que ça remet en cause cette candidature?
Tout à fait, ça a remis en cause, puisque l'article 30 du comité donc des Oscars dit que pour concourir donc aux Oscars, à la course des Oscars, le film doit sortir dans le pays d'origine pendant 7 jours consécutifs. Et malheureusement, nous n'avons pas pu donc avant le 30 septembre. Donc nous n'avons pas pu on va dire respecter cette règle-là et nous avons tout simplement expliqué au comité des Oscars en faisant des courriers, en expliquant la situation, des lettres, des coups de fil, en expliquant que nous sommes malheureusement tributaires de cette décision et que ce film doit exister et que ce film doit montrer une image aussi positive de ce pays, puisque ce que moi j'avais envie avec ce film-là c'était de montrer autre chose de l'Algérie, des années 90. Souvent dans les médias, c'était uniquement des bilans, des attentats, des flashs d'informations avec des massacres. Moi, j'avais envie de montrer la société algérienne et plus particulièrement la résistance des femmes à cette époque-là. Et donc, nous avons tout simplement expliqué nos problèmes et après avoir eu une audience et un passage en commission, une dérogation nous
du
permettant...
Du comité des Oscars.
Tout à fait, oui. Nous permettant de concourir avec les 92 autres pays, puisqu'on est 93 pays à participer cette année.
Et c'est un peu une première, non? Parce que d'habitude, ce sont les États qui nomment leurs candidats. Peut-être la première fois dans l'histoire des Oscars.
C'est exceptionnel. Il faut savoir que le comité des Oscars algérien a fait cette demande également avec nous. C'est-à-dire que vous savez que le comité des Oscars algérien est indépendant du ministère de la Culture. Donc on soutient des producteurs de ma demande. Le comité des Oscars algérien a lui aussi fait une requête commune.
Et donc on peut annoncer en avant-première que Papicha est d'ores et déjà dans la course du meilleur film étranger.
Pour nous, c'était une nouvelle absolument magnifique, puisque j'ai eu ce sentiment d'être sanctionnée alors que nous avions même pas démarré la course. Et c'est vrai que ce geste assez extraordinaire nous encourage à continuer et puis nous encourage en tant que réalisatrice, en tant qu'artiste, en tant qu'intellectuelle à continuer à raconter des histoires en tout cas.
Alors Mounia Médour, on va écouter la bande-annonce de votre film Papicha, une autre image de l'Algérie des années 90.
C'est quoi ça?
استيقظت الجزائر صباح اليوم على وقع عمل إجرامي من طرف الجماعات المسلحة.
سي كوا سي زافيش بركة ما تلصق فيهم. رايي نهضر معاك.
انتوما استروا رواحكم شوية برك خلونا من لي بروبليم.
نديروا حجاب نقعدوا في الدار. سي زا. البنات حابة ندير ان ديفيلي. Vous allez défiler pour moi.
Tu veux prendre une balle, c'est ça?
Hit la classe, ciel, papi Jean.
Oh.
Moi, je suis bien ici. C'est pas facile, faut se battre, c'est tout.
La bande-annonce de votre film, Mounia Medour, Papicha. Alors, Papicha, en fait, on va comprendre que c'est le surnom de Nejma. Ça veut dire quoi? C'est de l'argot algérois?
Voilà, c'est pas le surnom de Nejma en particulier, c'est le surnom de toutes les jeunes filles qui, à l'époque, en fait, étaient assez émancipées, puisque c'est un terme vraiment qui a été utilisé dans les années 90, et un terme donc algérois, et qui voulait dire jeune fille émancipée, assez coquette, extravertie. Ça peut paraître péjoratif dans un premier temps, mais il faut savoir qu'à cette période, l'être était déjà une sorte de résistance. C'est-à-dire, être une papicha était une sorte de résistance, indirectement, puisqu'à cette époque, on ne pouvait pas forcément montrer sa féminité. Et du coup, c'est vrai que pour moi, la papicha, c'est un peu le symbolique et la symbolique, effectivement, de toutes les femmes de l'époque qui ont résisté.
Nejma, au début du film, la première séquence, elle fait le mur avec une de ses amies. C'est quoi? Elle n'est pas dans un pensionnat, elle est dans une sorte de foyer de la fac, c'est ça?
Ça s'appelle une cité universitaire, je pense qu'on peut dire un campus aussi universitaire ici. Oui, c'est une image pour moi qui est très importante, puisqu'elle annonce la couleur du film. On sort un peu de ce milieu qui est un peu semi-carcéral par ce trou béant, et on a l'impression de s'évader d'une prison, on a l'impression. Et ces jeunes filles s'évadent tout simplement pour aller vivre, pour aller danser, pour aller s'amuser, se maquiller, profiter de la vie, de leur âge, puisque c'est des jeunes femmes de 18 ans, donc ça pourrait paraître dans n'importe quelle autre société comme une soirée ordinaire, sauf que là, on s'extirpe
aussi, parce que les filles et les garçons, bien évidemment, hein, sont séparés, et aux filles, on leur donne des petits comprimés. Enfin, j'étais un peu surprise, je me demandais ce que c'était ces comprimés qu'on leur donne.
Oui, alors c'est pas des comprimés, c'est effectivement une substance qui est utilisée dans les boissons, notamment le lait, lorsque on habite dans une cité universitaire. Effectivement, c'est pour calmer un tout petit peu les ardeurs. Mais il faut savoir que le bromure,
les ardeurs sexuelles,
voilà, notamment,
c'est réel.
C'est réel, mais vous savez que ça existe partout dans le monde, et notamment dans les casernes. Je crois qu'aujourd'hui encore, on utilise, même en France.
Ça a été donné aux appelés du contingent lorsqu'il y avait encore le service militaire en France. Effectivement, on donnait aux jeunes garçons du bromure.
Voilà, c'est tout à fait universel. Mais très vite, dans les cités universitaires, on avait notre petite cuisine, donc on préparait. On savait que le lait, c'était à éviter.
Et vous avez puisé dans vos souvenirs d'adolescence, Mounia Medour?
Oui, énormément. La base, effectivement, du film, c'est absolument mon quotidien. C'était mon quotidien dans les années 90. Moi, j'ai vraiment habité dans une cité universitaire similaire à celle qui est décrite dans le film. J'avais 18 ans, j'étais étudiante en journalisme. J'avais une petite émission radiophonique où on présentait les initiatives étudiantines des jeunes à l'époque à Alger. Et donc, j'ai côtoyé vraiment de façon très directe différentes jeunes filles étudiantes, puisque nous habitions dans ce foyer, nous étions 4 à 5 étudiantes par chambre, donc j'ai puisé vraiment dans tous mes souvenirs, dans tous les détails. J'ai glané comme ça la résistance de l'une, le côté fleur bleue de l'autre, le côté cette envie d'exil chez d'autres, et donc j'en ai fait un tout petit peu tous les personnages de Papicha actuellement. Ce qui est réel aussi, c'est l'extérieur de cette cité universitaire, cette oppression, cette montée aussi du radicalisme, et tout ça, c'est vraiment des bribes de souvenirs que j'ai rassemblés, j'ai structurés avec pas mal de fiction aussi, puisque ouais, c'est une fiction, et ça a donné Papicha.
Avec cette brigade de jeunes femmes totalement voilées de noir, enfin comme échappées de l'Iran des ayatollahs.
Oui, alors c'est vrai que cette scène annonce vraiment le début de la descente aux enfers, on va dire, parce que c'est vraiment la première approche directe avec ces jeunes femmes, puisque dans un premier temps, on voit tout simplement ces affiches qui sont à l'extérieur de la cité, puis ces affiches qui s'introduisent à l'intérieur de la cité.
Donc des affiches pour dire aux jeunes femmes de s'habiller de
façon décente.
Voilà.
Et il faut comprendre qu'à l'époque, ne pas le faire était très dangereux. Par exemple, il y a eu le cas de Katia Bengana, à qui je rends hommage, qui à cette époque a refusé de porter le voile et qui a été tout simplement abattue, tout simplement et cruellement et horriblement abattue. Et c'est vrai que donc il y a dans le film, cette montée graduelle de l'oppression avec ces femmes qui s'introduisent à l'intérieur de l'amphithéâtre, puis à l'intérieur de l'intimité des filles, puisqu'elles elles s'introduisent dans la chambre des filles. Et donc voilà, c'est pour ressentir cette oppression grandissante.
C'est ça, on a l'impression que le film commence en s'élargissant, hein, c'est comme si les cercles, par l'envie de liberté, hein, des papichas, s'ouvraient progressivement, et puis il y a un deuxième mouvement où on a l'impression que justement on revient vers l'intime et que même cet intime est menacé. C'est comme ça que vous l'avez conçu ?
Tout à fait, tout à fait. Il y a vraiment une première partie sur la fougue, sur la jeunesse, l'envie de vivre, la pulsion de vie. On est avec ces jeunes femmes, on est proche des corps, on est avec elles. Et oui, il y a effectivement une toute première partie où j'avais envie qu'on s'identifie à cette jeunesse, à cette vulnérabilité. Et puis il y a un moment clé qui marque un peu le pivot du récit. Et à partir de là, on rentre dans un rythme un peu plus lent, on s'attarde un peu plus. Et puis, cette période correspond à cette montée graduelle de violence. Donc, l'étau se referme, notamment sur ces jeunes filles.
Et vous, est-ce que vous aviez le sentiment, Mounia Medour, en écrivant ce film, je crois que ça a été un long processus d'écriture, de faire le portrait d'une génération ?
Oui, indirectement, on fait effectivement le portrait d'une génération. Mais moi, en tant que réalisatrice, ce qui m'intéressait, c'était de montrer une réalité que moi-même j'avais vécue, un point de vue très particulier. Et c'est vrai que le film est du point de vue de Nejma et le point de vue de cette jeune fille, puisque si on analyse un peu toutes les séquences, on est tout le temps de son point de vue à elle, même au moment du pivot, on reste avec elle jusqu'au bout. Donc c'était le point de vue de cette jeune fille dans cette Algérie, face à des obstacles et qui continue à rêver. Mais indirectement, oui, je pense qu'on fait aussi le témoignage d'une génération, en tout cas ma génération, et une partie d'une génération.
Sacrifiée. Oui, on a appelé. Vous iriez aussi loin que ça ?
Oui, on nous a clairement appelé la génération sacrifiée, puisqu'on est une génération, malheureusement, qui, à 18 ans, vivions notre jeunesse de façon différente que les autres. Et c'est pour ça qu'on nous a appelé une génération sacrifiée. C'est la génération qui a 40 ans aujourd'hui, c'est la mienne.
Et c'est celle qui, dont les enfants descendent dans la rue.
Tout à fait.
En ce moment même à Alger.
Tout à fait, puisque si on analyse aussi le film, indirectement, la dernière scène du film, on sent qu'il y a la naissance d'un enfant. Et on peut imaginer que symboliquement, cet enfant a 20 ans aujourd'hui. On peut imaginer, on sait que c'est une fille, on peut imaginer que c'est les jeunes femmes qui sont dans les rues aujourd'hui, qui militent massivement, pacifiquement pour une nouvelle Algérie, une Algérie qui leur ressemble, une Algérie libre. Et du coup, c'est vrai que cette jeune fille peut être à la reconquête de l'espace public aujourd'hui à Alger.
Alors Mounia Medour, on va écouter un extrait de votre film Papicha. Donc on est dans l'amphithéâtre avec Nejma et ses copines, cours de philo.
Nous allons parler du texte Individu et Société. Dans ce texte, Albert Jacquard explique que son objectif n'est pas de construire la société de demain, mais de montrer qu'elle ne doit pas ressembler à celle d'aujourd'hui. Et que vivre, ce n'est pas lutter contre les autres. Je le répète. Et que vivre, ce n'est pas lutter contre les autres.
Escut.
Je m'y compte.
لعن الله قوما يتحدثون الأجنبية.
Ah voilà, extrait de Papicha. Donc c'est l'un des premiers moments de bascule, hein, du film. Vous parliez tout à l'heure de ces femmes entièrement voilées de noir, elles font irruption.
Tout à fait, c'est vraiment le premier moment, on va dire, dramatique du film, puisque c'est l'intrusion de ces femmes en noir à l'intérieur de ce lieu d'éducation, en fait, puisqu'on est à l'intérieur d'un amphithéâtre. Et moi, je voulais vraiment rendre hommage à travers ce petit passage à Albert Jacquard, puisque moi, j'ai eu la chance de faire un documentaire avec lui. Et je trouve que cet homme était passionnant, un humaniste absolument incroyable. Et nous avions fait un documentaire en Algérie à l'époque. Et donc voilà, c'était pour moi une façon de lui rendre hommage. Et dans cette scène, la phrase qui est dite est symbolique de la situation. La société d'aujourd'hui ne doit pas ressembler à celle d'hier. Donc du coup, on est...
Et on ne doit pas vivre contre les autres.
Tout à fait.
Ce qui est exactement le contraire de ce qui va se passer.
Tout à fait. Et ça annonce aussi la couleur de la suite.
Et alors, c'est intéressant d'avoir choisi le début. Parce qu'on a vu tellement de films sur les années noires en Algérie. Mais il me semble que c'est l'un des très très rares qui montre le crescendo. C'est-à-dire, voilà. vous l'avez saisi, Najma, au moment où on peut penser que ça va encore basculer dans le bon sens.
C'est ça. Alors on est plutôt au milieu de la décennie noire. Pour moi, on est plus. J'ai pas voulu dater exactement puisque c'est de la fiction et je voulais pas s'attacher à des événements particuliers, à une période particulière puisque c'est toujours un peu délicat par rapport à la mémoire, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport aux événements qu'il y a eu. Mais ce que j'ai voulu faire dans la fiction, c'est effectivement de rassembler comme ça un moment clé. Un moment de progression massive de violence, et c'est ce qu'on ressent de toute façon dans le film.
Vous, à quel moment vous avez senti que rien ne se retournerait dans le bon sens?
Malheureusement, lorsqu'on a 17 ans, moi j'étais exactement comme Najma, c'est-à-dire pas très politisée, j'étais pas une militante, on continuait tout simplement à aller à l'université, à la fac, sortir un peu le soir, à faire la fête, à rire. Donc on avait des œillères, puisque pour continuer à vivre dans une société comme celle-ci, où la vie peut basculer d'un moment à un autre, on était contraint de ne plus regarder par exemple les informations. Moi je sais que on regardait pas les informations, on n'écoutait plus la radio. La question qui était posée, c'était combien, tout simplement, combien. Donc on savait que c'était combien de morts. Voilà, combien. Et c'est terrible parce qu'on savait que ça allait être dramatique et donc on évitait de se faire du mal.
Et vous pensez que Najma, du coup, elle a quand même une forme de résistance? Elle a quand même une forme presque de militance à vouloir s'habiller, à vouloir organiser ce défilé de mode? C'est complètement de l'insouciance.
Je pense que c'est dans un premier temps de l'insouciance, puisque c'est une jeune fille qui ne milite pas de façon frontale, mais sa résistance, c'est tout simplement de rester sur place, de continuer à vivre, et puis en hommage à sa sœur donc journaliste, et donc il y a un peu de tout ça.
Alors elle ne veut pas organiser n'importe quel défilé de mode. Elle utilise comme pièce maîtresse le haïk. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce que c'est que le haïk et de sa symbolique, puisqu'en fait elle renvoie aussi à la guerre d'indépendance?
Tout à fait. Pour moi, c'était primordial de trouver un élément un peu fédérateur de la société algérienne. Et donc c'est vrai que je trouve que le haïk, qui est donc un tissu symbolique, qui a été utilisé par beaucoup d'Algériennes pendant des décennies et qui continue à être porté, était un élément très important par sa symbolique de résistance aussi, puisque les femmes en Algérie le portaient aussi pendant la guerre de libération pour transporter des armes.
Donc c'est une sorte de grande pièce de tissu.
Tout à fait, soie, moitié laine.
Clair, c'est du tissu clair en général?
Ah oui, c'est plutôt blanc cassé, beige. Et donc pour moi, c'était très important d'avoir cette couleur assez lumineuse en opposition avec ce qui se passait à l'extérieur, à un moment où on veut couvrir le corps des femmes d'un tissu noir, plutôt sombre, à l'intérieur de cette cité. On veut embellir le corps des femmes avec des couleurs blanches, sacrées, lumineuses. Donc il y avait une opposition qui était très claire dès le début. Et puis je trouvais que c'était intéressant d'utiliser cette étoffe pour en faire une nouvelle collection, quelque chose de l'ordre du recyclage aussi. Et puis comme c'est un personnage qui tient énormément à sa terre, à ses racines, donc c'était évident qu'il y avait un rapport direct.
Et cette, comme le disait Sophie, hein, le simple fait de vouloir embellir le corps des femmes est un acte de résistance. Et vous avez choisi, parce que là on parle, effectivement, il se passe des choses tragiques dans votre film, mais il faut aussi parler de sa mise en scène, qui est extrêmement sensuelle. La lumière, on est très proche des corps, vous avez voulu justement aller dans ce sens.
Ah oui, c'était très clair.
De contrer la violence.
Oui, tout à fait. C'était très très clair au moment de l'écriture du scénario que la mise en scène allait être au service de la narration. Ce qu'on raconte, c'est quelque chose de l'ordre du microcosme. On est au sein de cette petite communauté de femmes. Donc, une caméra très proche des corps, une caméra très proche des tissus, des peaux, des mains, des mouvements. Donc, pour moi, c'était assez évident d'avoir ce côté assez immersif avec ce montage aussi, très incisif, puisqu'on est très cut dans le montage. montage des plans, même presque on coupe avant la fin de l'action, puisque c'était notre quotidien de ne pas savoir ce qui nous attendait. Donc pour créer aussi cette urgence de vie, cette inquiétude, cette peur aussi.
Cette tension.
Et c'est vrai que la mise en scène avec mon chef opérateur Léo Lefebvre, on a énormément travaillé sur cette idée de ressenti, pouvoir retranscrire au mieux cette période.
Et ce qui est formidable aussi, c'est que vous captez la tchatche de la jeunesse algéroise. Par exemple, il y a un garçon qui drague Nejma. À un moment donné, il lui dit tu es belle comme un coucher de soleil, j'ai déjà bronzé.
Oui, quand ça, c'est vu, j'ai bronzé, oui. Ça, c'est unique, mais c'est tellement réel, puisque les garçons sont inventifs, c'est hilarant, c'est drôle. La drague en Algérie est très drôle. Et elle peut être un peu agressive par moment, mais elle
est très
drôle.
C'est très émouvant, parce qu'on voit que c'est aussi une façon de s'emparer du réel qui est peut-être pas très folichon, oui. Et de l'embellir.
Oui, tout à fait, puisque ce garçon rêve tout simplement d'avoir une histoire d'amour avec cette jeune fille. C'est tout à fait naturel et normal à son âge. Et c'est vrai que cette scène, pour moi, elle a été très, très symbolique. C'est une sorte de chronique aussi de la société algérienne. On est dans une rue mythique, puisqu'on est dans la Casbah. Pour moi, c'était un rêve de tourner dans la Casbah et on a réussi à faire cette scène-là.
C'était donc compliqué.
Non, ça n'a pas été compliqué. Notre producteur a fait le nécessaire et c'est vrai que pour moi, ça a été un moment assez fort de pouvoir tourner dans cette rue avec ce jeune garçon. Ses phrases sont drôles. C'est de l'algérois et l'algérois, c'est du français arabe aussi. C'est moitié français, moitié arabe. Des mots français qu'on arabise, des mots arabes qu'on francise et ça donne cette espèce de mixture assez drôle, inventif et c'est la langue qu'utilisent beaucoup d'Algérois.
Vous, Mounia Medour, vous avez écrit votre film bien avant, on parlait de la révolution du sourire, hein, vous l'avez écrit bien avant que les Algériens,
malheureusement, oui,
ne descendent dans la rue. Mais on espère que ce sera l'occasion d'écrire un nouveau film. Mais c'est vrai qu'en mettant les deux face à face, j'avais l'impression que cette joie de vivre de Nejma, et de ce garçon aussi qu'elle croise dans les escaliers de la Casbah, c'est presque un visage de l'Algérie qu'on avait un peu oublié.
Oui, ce qui se passe dans le film, c'est aussi un hommage donc aux femmes et aussi à cette jeunesse intelligente qui a juste envie de vivre. Et c'est vrai que le film, moi je l'ai tourné il y a longtemps, mais on arrive aujourd'hui à une période où c'est ce qui se passe en Algérie. On sent que les jeunes en ont ras-le-bol, ont envie d'avoir une société qui leur ressemble, ont envie de changement, de liberté, de démocratie, d'améliorer aussi leur quotidien. Et c'est vrai que c'est ce qu'on ressent aussi dans le film. Et on dit dans le film, l'Algérie est une grande salle d'attente. Et c'est vrai, aujourd'hui, toujours, donc 20 ans plus tard, on est toujours dans une Algérie, une sorte de salle d'attente, puisqu'on attend tous quelque chose, un logement, un travail, des soins médicaux, un visa, un passeport. On est dans cette attente perpétuelle.
Et vous n'avez pas eu envie de descendre dans la rue, justement, pour la filmer, cette nouvelle génération?
On a fait quelques photos, parce que moi, je fais beaucoup de photos aussi, donc j'ai fait pas mal de photos, et je prépare une expo photo bientôt. C'est encore secret,
ça.
c'est en cours. Donc, je m'inspire aussi pour mon prochain film, puisque j'aimerais bien aussi parler de cette période qui est très forte, et je trouve qu'elle est historique, puisque pour moi, il y a eu vraiment la guerre d'indépendance, la décennie noire, et là il y a les révolutions du sourire, cette révolution qui est assez incroyable et qui va certainement marquer le tournant de l'histoire algérienne. Donc il y a une matière pour un scénariste absolument incroyable qu'il faut absolument capter pour encore une fois montrer le courage de ces jeunes qui sont dans la rue.
Merci beaucoup Mounia Medour.
Merci à vous.
Et je rappelle le titre de votre film Papicha, tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro Sophie Torlotin
et Elisabeth Le Quéré, à la réalisation Fanny Renard.
Rendez-vous la semaine prochaine pour une émission spéciale avec Boris Lojkine, son nouveau film entièrement tourné en Centrafrique et dédié à Camille Lepage, cette jeune photojournaliste morte en 2014. Et d'ici là, toute l'équipe de Tous les cinémas du monde vous souhaite une très bonne semaine.
Tous les cinémas du monde.
Tous les cinémas du monde.